Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org consacré à la musculation sans dopage que nous avons créé en 2009 et sur lequel vous pouvez retrouver des milliers d'articles, des vidéos et des podcasts afin de vous éviter de faire les mêmes erreurs que nous et d'éviter de perdre du temps. De manière plus personnelle, nous avons chacun nos propres sites. Pour Fabrice, c'est musculation-alter.fr sur lequel vous pouvez retrouver des articles sur l'entraînement à domicile ainsi que son livre du même nom. Pour moi-même, c'est sur rudycoya.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, de véritables suivis, mais également des formations en fonction de votre morpho-anatomie, des livres comme le guide de la prise de masse naturelle et le guide de la sèche naturelle que je vous envoie personnellement chaque semaine de manière dédicacée, ou encore la formation super physique sur méthodesp.rudycoya.com pour les plus passionnés d'entre vous. Enfin, vous pouvez retrouver sur le site Super Physique, notre marque de compléments alimentaires destinée à améliorer votre santé et dont une bonne partie est bio, et notre application SP Training disponible sur tous les stores afin de vous permettre de savoir quoi faire à chaque séance. Enfin, vous êtes les bienvenus au Super Physique Gym et à la Villa Super Physique à proximité d'Annecy, mais pour ce faire, il faudra me contacter avec le lien directement dans la description. Allez, c'est parti. Salut Fabrice, comment ça va aujourd'hui ?
Salut Rudy, ça va? Alors déjà, Rudy, est-ce que tu te souviens de la citation de la semaine dernière qui pourrait devenir un peu la tagline de notre podcast ou tu as déjà oublié?
J'ai complètement oublié, c'était il y a deux semaines, Fabrice.
Donc deux semaines.
Tu perds en plus la tête.
Alors je la redonne pour tout le monde, et y compris les nouveaux auditeurs. C'est « Si je ne suis pas à ce que je fais, je ne pourrai pas être ce que je suis ». Et comme on peut la lire un peu de différentes manières, c'est toujours très profond quand c'est pas très très clair. Mais en gros, ça dit que il faut mieux éviter d'écouter ce podcast si vous faites votre séance de musculation et que pendant votre séance de musculation, vous ne devez être qu'à votre séance de musculation pour pouvoir devenir l'être que vous serez avec votre pratique de la musculation. En résumé, c'est ça.
L'être suprême, le guerrier légendaire, quoi. C'est bien ça voilà. Que vous allez devenir.
En gros, imaginez si vous avez regardé Dragon Ball Z quand vous étiez adolescent, on n'imagine pas Vegeta en train de faire du smartphone dans la salle du temps, tu vois. Ou t'imagines pas comment ça s'appelle Gohan, le fils de Sangoku, voilà, qui pendant l'entraînement il va aller regarder s'il a reçu des WhatsApp, tu vois, c'est pas possible. Tu peux pas atteindre la transformation numéro 3 si t'as fait des entraînements avec aussi peu d'implication. Et donc en gros, c'est ça que nous dit cette citation, Rudy.
Et mais de qui cette citation, elle est créditée de Fabrice?
J'ai écouté un podcast en espagnol et donc le type avait dit cette phrase-là en espagnol et je l'ai traduit plus ou moins en français et je me suis dit tiens, elle est pas mal cette phrase-là. Et donc voilà. Et comme c'est une traduction puis que la traduction est de moi, je m'approprie un peu la phrase, tu vois, je fais un peu du vol de phrase.
Ah, tu l'as écrit sur ton tableau alors, sur ton frigo, je veux dire.
Je l'ai écrit sur ma page d'accueil de mon ordinateur. Vu que moi-même, de temps en temps, j'ai un peu de mal avec le smartphone, j'en fais aussi un peu trop à mon goût. Et ben, comme ça, je me la donne. Et je me suis dit que ça faisait un peu plus vendeur que pour le podcast que le kikimètre, parce que le kikimètre, ça fait trop humble, tu vois.
Ça fait trop humble.
On dit cette phrase. Ça fait trop humble d'avoir conscience que tu joues au kikimètre quand tu fais de la muscu, quand tu fais du rameur ou quand tu fais je sais pas quoi. Notamment des randonnées, mais j'en parlerai peut-être après. Est-ce que tu veux aborder quelque chose?
Oui, bien sûr. Moi, j'aimerais savoir, Fabrice, où tu en es du rameur et du skieur, sachant que, pour la petite info, j'ai fait deux petites séances de rameur, justement, à cadence 20 pour voir.
Ah bah c'est rigolo, quelle surprise ça! Sacré Rudy. Ouais, ben bah en fait, ce qui se passe, c'est qu'avant, j'étais en Espagne, donc j'allais à la salle et tout ça, et je suis revenu en France, donc le temps de faire le trajet, de m'adapter et tout, ben il y a eu une petite pause dans le rameur.
Oh non.
Et je me suis commandé le ski erg que je vais recevoir samedi, et je m'étais dit, je vais rester un petit peu avec mon rameur à eau là pour voir, et je pourrais faire par exemple rameur à eau, ski erg, et puis mon petit vélo décathlon, et voir comme ça se goupille. Je compléterai avec de la natation, de la rando et tout. Je voulais pas lâcher trop d'argent d'un coup. Et en fait, en retestant mon rameur à eau, je me suis rendu compte que c'était une belle daube, et que je pouvais considérer que j'avais pas de rameur. Et donc, soit il faut que je relâche un billet pour avoir le rameur concept 2, soit faudra que je me spécialise sur le ski erg. Mais effectivement, le rameur à eau, eh ben, il était pas bien celui que j'ai. Et c'est marrant parce que quand on faisait de la muscu dans le temps, parce que il y avait des machines à la salle qui étaient toutes pourries. Genre, vous aviez des presses à cuisses avec un plateau qui était trop petit, on pouvait pas mettre ses pieds suffisamment haut, ils étaient trop bas, ça faisait mal aux genoux. Enfin, il y avait souvent des trucs comme ça dans les salles de muscu. Là, je crois que la situation s'est quand même améliorée et que le matériel est quand même de meilleure qualité de nos jours. Mais avant, il y avait souvent des machines, on se dit, mais c'est un babouin, quoi. Qui a conçu la machine, c'est pas possible, il a jamais monté dessus pour tester. Et en fait, je pense que c'est ce qui s'est passé avec mon rameur à eau, et qu'en fait, la personne qui l'a conçu, c'est pas possible. Elle s'est jamais vraiment mis dessus, ou elle a jamais fait d'un vrai rameur, parce que sinon, ça saute aux yeux qu'il y a des trucs qui vont pas, et notamment l'endroit où on pose ses pieds, c'est trop haut, l'angle est pas bon, enfin bref, il y a plein de choses qui vont pas. Et si je faisais une comparaison, c'est comme si le rameur Concept 2 ou le rameur Technogym que j'avais testé au fitness Park. C'est comme si c'était une presse à 45 degrés avec un gros plateau, on va dire. Et là, le rameur à eau que j'ai chez moi, c'est comme si c'était une presse à 70 degrés avec un tout petit plateau et où le plateau, en plus, il serait un petit peu incliné. Et moralité, on n'a pas trop, on peut pas bien engager ses jambes dans le mouvement. Et comme moi, j'y connaissais rien, je me dépouillais sur mon rameur à eau et ça avait une certaine efficacité. Mais en fait, c'est très éloigné d'un vrai truc, quoi. C'est quelque chose pour faire joujou puis se fatiguer, mais c'est pas fait pour vraiment s'impliquer dedans, quoi. Et donc, voilà. Moralité, rameur à eau, t'avais raison, Rudy, c'était une bonne. Et j'aurais mieux fait de faire comme tout le monde et choisir le truc de référence qui était le rameur Concept 2. Parce qu'au final, là, il faut que je le revende. Donc, je dois le brader.
C'est un vendable.
Je vais devoir en racheter un si jamais je décide de... je pense que je vais le brader très peu cher puis que ça partira peut-être. Mais effectivement, au final, ça me coûte plus cher vu que je finis par avoir le vrai rameur en ayant plus perdu sur la vente d'occasion du précédent. Donc, bien mauvaise stratégie, Rudy. Mais revenons à toi. Donc, pour la première fois de ta vie, je crois, t'as testé de faire du rameur à cadence basse, si je comprends bien.
Oui,
alors qu'avant, tu faisais du 500 mètres en résistance 10 et à toute vitesse. C'est ça?
Oui, pas vraiment. Pour ceux qui suivaient à l'époque, du rameur, c'était il y a 4 ans. En général, je faisais 2 séances différentes. Je faisais une séance où je diminuais le nombre de mètres chaque semaine. Et en gros, je faisais des sortes de sprints de 40 secondes, 35, 30, etc. Puis je faisais une séance, je faisais des 500 mètres, mais sans me soucier de la cadence, où j'accélérais d'une seconde aux 500 mètres chaque semaine. En gros, c'était un peu ça mon entraînement, pour le résumer, de mémoire. Et donc, comme t'en as fait, et donc tu parlais du drag factor, tout ça, je me suis dit, tiens, je vais essayer, je vais voir ce qui se passe. Donc, je me suis dit, je vais faire cadence 20, et je vais tester un peu toutes les résistances.
Ouais.
Pour voir ce qui se passe. Et force est de constater que même sur du long, t'as du long, pour moi, là, je suis en train de faire des 1000 mètres, hein, donc c'est pas si long que ça.
Oui, c'est pas très long, en fait.
c'est pas très long, mais en fait, à cadence 20, là... où je suis le plus rapide, à cadence 20, je me rendais pas compte, mais c'est vraiment une très basse fréquence, hein. C'est un coup toutes les 3 secondes, hein, donc tu fais pas grand-chose quand même.
Mm-hmm.
Et en fait, là où je suis le plus rapide, c'est à 9 sur 10.
D'accord, là où t'es le plus rapide.
Okay. Là où c'est le plus rapide, sans tirer comme un fou. En plus, là, mon idée, entre guillemets, c'est de tirer comme si je faisais un 2000, quoi. Je me dis, je fais un 2000, mm-hmm. Donc qu'est-ce que je peux tenir? Et je vois bien que... donc j'ai testé 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et à chaque fois que je montais, sauf à 10, où là, c'était vraiment très musculaire. Donc, pour info, mon rameur, quand il est un peu vieux, son drag factor au max, il est à 220. Et donc là, j'ai pas regardé, mais ça doit être à peu près 200 sur le 9. Et c'est là où je suis le plus, on va dire, le meilleur compromis pour l'instant, quoi. Donc, en plus, je me suis motivé parce que j'ai inscrit un nouvel adhérent à la salle qui fait 1m96.
Ouais.
Donc, le gabarit du rameur. Et je me suis dit, putain, il manquerait plus que 2 autres personnes s'inscrivent, des grands. Et puis, on se ferait des compètes de rameurs. On pourrait aller faire le championnat de France de rameur en relais et on aurait toutes les chances de gagner. Mais bref, donc là j'en fais une fois par semaine en montant progressivement la distance, mais c'est vrai que j'étais assez surpris. Alors c'est sans doute aussi parce que du fait que je sois lourd, je dois faire 96 kilos, et c'est vrai que en fait dès que je me penche un peu en arrière, en fait je vois le truc qui accélère tout seul, quoi. Tu sais, j'ai pas ce truc là j'ai vraiment l'impression qu'à cadence 20 j'ai vraiment l'impression de rien faire, hein. Donc après, les mecs, effectivement, en font pendant 10 minutes, pendant 20 minutes, etc. Donc,
oui,
c'est sûr qu'à la fin,
que ça,
crève.
Normalement.
Mais c'est vrai que bah, je fais exprès de rester à 20, donc pour pas accélérer. Donc, mais c'est vrai que putain, c'est pas le rameur plaisir quand même 14-20.
Ouais, non, c'est sûr qu'à danser, faut apprendre à aimer. Mais en fait, oui, non, quand ils font ça, c'est sur les sessions justement de longue durée. Donc, tu vois, ça va être 2 fois 20 minutes ou 40 minutes. Donc, 1000 mètres, c'est vraiment très peu. Après, sur cette histoire de drag factor, en fait, moi, j'étais un petit peu étonné parce que j'avais vu des types qui, comme toi, qui étaient lourds, là, qui faisaient 90, 100 kilos. Et sur le 2000 mètres, et à l'entraînement, ils disaient qu'ils mettaient un drag factor à 140, sauf éventuellement pour les sprints.
Ouais, alors voilà. moi j'ai testé à 5-6, franchement, je perds à peu près 6 à 7 secondes de 500 mètres.
Ma foi. Bah écoute, tu verras si jamais tu augmentes encore la durée. Ou
ouais, oui, je vais augmenter la durée. L'idée, c'est à un moment, je vais peut-être me chauffer, parce que là, je le fais en fin de séance, j'ai déjà fait 2h30 de séance. Un coup, je vais peut-être me chauffer et faire une vraie séance par semaine. Et l'idée, c'est de faire genre un 4 x 2000 à un moment, et puis voilà, quoi.
Ouais.
Voir si ça tient comme ça, mais bon, là, pour dire donner des chiffres, en gros, je me cale à 1,45 aux 500 mètres.
Ouais. Bon,
j'ai pas l'impression de faire grand-chose non plus à cadence 20, quoi. Mais je me dis, bon, bah, je pourrais tenir comme ça bien longtemps, je pense. Hein. Donc, bon, on va voir si je fais mon 4 x 2000 comme ça dans quelques semaines.
Ok. Bon, fais déjà l'essai parce que tu sais, c'est un peu des fois, c'est un peu comme au développé couché quand tu quand tu es capable de faire 12 reps, t'en fais 10, puis tu te dis ah bah je pourrais en faire 20 finalement parce que 10 c'est pas très dur, puis finalement t'en avais que 2 de marge. Mais bon. Ah voir Rudy.
Ouais ouais, donc bah c'est la surprise, donc c'est pour ça que je voulais savoir où t'en étais, mais bon vu que tu traînes pour acheter ton concept 2
Ouais ouais, j'en suis à pas grand-chose là. En effet.
Mais bon, on en revient à ce qu'on avait dit à un moment quand c'était ton anniversaire, que tu cherchais à t'acheter un cadeau, tout ça, et ou sur le vélo que tu avais acheté, ou le vélo d'appart, ou même le vélo que tu avais acheté. À chaque fois, tu voulais acheter les trucs un peu les moins chers, tout ça. Et moi, ma conclusion, c'est comme la tienne maintenant, ce que j'avais dit, c'est que quand tu achètes des trucs pas chers, tu chipotes tout ça, bah c'est de l'ado. En fait, mieux vaut prendre, si tu as les moyens, la référence, tu prends la référence, tu es sûr de pas te tromper, et tu es sûr que ça va durer, quoi. Et dès que tu prends une daube, bah en fait, ça tient pas, quoi. Ça tient pas, ou tu vois bien que tu peux pas faire ce que tu veux, c'est...
Ouais, bah disons, quand tu connais pas le reste, puis que du coup, tu sais pas, tu te dis, bon, bah ça va à peu près, c'est comme mon vélo d'appartement, j'en étais content de faire dessus. Mais c'est vrai que maintenant que j'ai testé les vélos d'appartement Technogym, quand je suis revenu sur celui-là, j'ai l'impression que c'était un jouet, quoi, que je pouvais pas aller trop vite, tout ça, j'étais pas bien assis, enfin bref. Ça va pour faire joujou, mais effectivement, c'est pas pour performer, en fait. C'est...
Alors que toi, t'es un performeur, justement.
Ouais, mais en plus, je suis même pas, tu vois, qu'est-ce que ce serait quelqu'un qui serait bon, quoi. Il dirait, je veux pas jouer avec ça, quoi. C'est comme quelqu'un qui serait motard, puis tu lui filerais une mobylette. Il dit, bah, je vais pas monter sur ta mobylette. Garde-la, va, t'es gentil, petit. Alors, sinon, en parlant de guerrier, Rudy. Donc, quand j'étais en Espagne, j'ai fait des petites randonnées tranquilles. Dont une avec un copain qui est en Espagne. Et à un moment donné, donc sur cette randonnée, on fait une trace qui était une trace GR10. Donc c'est les longues randonnées. Normalement, c'est pour les gens qui sont un petit peu aguerris. Et puis bah tout d'un coup, on se retrouve devant une espèce de des rochers successifs, une colonne de rochers. Et ça devenait de plus en plus compliqué à les monter. Mais c'était bien la bonne trace en fait. C'était bien par là qu'il fallait aller. Donc, on grimpe parfois en s'aidant des mains et petit à petit, on grimpe. Et à un moment donné, on trouve un piton. Donc, tu vois ce que c'est un piton? C'est un truc où tu dois accrocher normalement quelque chose d'escalade.
Okay.
Au niveau des rochers. Donc, on est fort étonné, mais on arrivait encore à grimper relativement facilement, tu vois. Donc, on continue à grimper. Et puis, cette fois-ci, on voit un autre piton et une chaîne. Donc, on se dit, bon, bah, effectivement, c'est de plus en plus compliqué, mais en même temps, c'est de plus en plus chiant de descendre. Donc, on va continuer. L'idéal, c'est d'arriver au bout et ensuite, on sera débarrassé de ce truc-là. Donc, après, il y avait encore des petites choses à monter. Et puis, finalement, à un moment donné, on arrive à une chaîne, mais cette fois-ci, la chaîne, elle était horizontale, un peu comme dans une Via Ferrata. Je crois que ça se dit comme ça.
Via Ferrata.
Et puis, il y avait plein de petits pitons. Via Ferrata, voilà, il y avait une chaîne horizontale et en fait, je pense que l'idée, c'était d'utiliser la chaîne horizontale pour mettre ses mains et de mettre ses pieds sur les rochers parce qu'ils étaient pas complètement verticales quand même. Et puis éventuellement, tu t'aidais, enfin c'est pas éventuellement, normalement tu étais censé avoir une corde qui passait par les pitons. Et là, Eh ben, on a abandonné et on a tout rebroussé chemin à l'envers. Et comme chacun le sait, grimper, c'est toujours facile, mais redescendre, c'est toujours plus compliqué parce qu'on sait pas où on met les pieds. Alors, je vous rassure, c'était pas si long que je le décris. En réalité, l'ascension, il y avait peut-être que quelques dizaines de mètres. Mais tout ça pour dire que je m'étais dit, bah dis donc, jamais on se dirait que une randonnée, c'est un truc de guerrier, tu vois. Eh ben, sauf que là, eh ben, on n'était pas motivé pour faire ce machin-là parce qu'on se disait, oulala, si on tombe, on va être un guerrier cassé. Donc, on va pas la faire. Et en fait, après, j'ai regardé sur Internet et ce qui se passe, c'est que ce passage-là du GR10, il est devenu interdit depuis 2023, justement parce qu'il y avait des gens qui s'y étaient engagés comme nous sans être préparés, c'est-à-dire sans petit équipement d'escalade ou de protection, et qui avaient appelé les secours parce qu'ils étaient coincés au milieu, en fait. Ils pouvaient plus ni descendre ni monter. Et moralité, donc ce truc-là a été interdit et parce qu'en fait, ils ont expliqué que c'était plus de l'escalade, en fait, que de la rando, cette partie-là. Et donc, bah, ça m'a un peu amusé. Et sur le coup, je me disais, bah, décidément, encore une occasion où je ne serai pas un guerrier parce que on a abandonné, quoi. Et moralité, dans chaque discipline, eh ben, il y a toujours un truc où tu peux être guerrier, tu vois, parce que même en rando, tu peux être guerrier avec des passages super difficiles, sachant que nous, on n'avait même pas de gros sacs, alors que ceux qui font le GR10, qui passaient par là, ils avaient peut-être un sac, tu vois, de 15 kilos en plus à gérer dans tout ce bordel. Donc voilà, c'était pour l'anecdote de l'espèce de randonnée escalade.
Putain, mais si Sylvester Stallone dans Cliffhanger, il serait monté jusqu'au bout, lui, hein.
Ouais, c'est ça. Lui, il avait même pas besoin de la chaîne. Et il monte jusqu'au bout. Mais il paraît aussi que sur le GR20 de Corse, pareil, il y a des passages un petit peu difficiles comme ça où il faut être encordé quand t'es pas trop habitué. Et ce qui est tout à fait mon cas.
Ouais, bah, et alors, puis surtout, tu vas te mettre à l'escalade alors pour de vrai?
Non, t'es fou. Alors là. Là, avec la plongée, ça m'a vacciné. Il faut ni descendre, ni monter trop. Moi, je fais pas ces activités-là. Je préfère être, comme on dit dans le jargon, une couille molle que tenter des trucs trop compliqués maintenant. Ça, je tente pas. Mais voilà, ça m'a amusé. Je me suis dit, ben, voilà. Est-ce que un vrai guerrier qui fait, je sais pas moi, 180 au squat là, est-ce qu'il aurait monté ce truc-là? Je suis pas sûr. Et tu vois, il y a toujours une occasion en fait qui te ramène à la réalité puis qui te dit bon bah finalement je suis pas complètement fonctionnel. Hein. Il y a toujours un truc qui va pas.
Bah, évidemment. Tu peux pas être bon dans tout. Comme tu disais à un moment là, quand tu faisais de la longe côte là. Et tu t'étais rendu compte qu'il y avait des compétitions de longe côte, tout ça. Donc tu disais à un moment il y en a qui cherchent à corser le truc. Donc là, dans chaque activité, de toute façon, tu peux faire un truc hyper difficile et être le champion de ta discipline qui existe à moitié. Donc
Ouais. Encore. Puis en plus là, c'est même pas un truc de champion parce que tu vois un GR en randonnée, c'est pas non plus extraordinaire quoi. C'est les passionnés de randonnée sont tout à fait capables de le faire sans problème. Sauf que nous, ben on n'est pas habitués puis c'était inattendu et on savait pas combien on avait encore à grimper en plus. Parce que ce que l'on s'est dit, quand bien même on franchit cet obstacle là. Si le prochain n'arrive pas à le franchir, faudra refaire celui-là dans l'autre sens. Alors là, ça va être compliqué. Donc on a abandonné. Mais voilà, même les randos, ça peut être dur. Et donc comme j'avais une Smart TV aussi, Rudy, pendant que j'étais en Espagne.
Une Smart TV? Mais c'est quoi ce truc-là?
Smart TV. Eh ben c'est un truc, c'est une TV où tu peux regarder YouTube dessus.
Oh là 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 là.
Ah ouais. Oh. Tu peux regarder YouTube dessus. Et alors? Du coup, j'ai regardé
ma chaîne YouTube, les analyses morpho-anatomiques en vidéo. Bah super, t'as dû te régaler alors.
j'ai pas pensé à faire ça. En même temps, et il m'a pas proposé YouTube. Hein. Et, normalement, il est censé me proposer mes centres d'intérêt. Il t'a pas mis dedans. Et donc, ce qui est très rigolo, c'est qu'on peut voir les championnats. On peut voir des championnats de rameurs. De rameurs sur l'eau, d'aviron, voilà. On peut voir des championnats d'aviron sur la chaîne qui s'appelle World Rowing. Et donc, on voit des types qui sont fins, mais quand même plus musclés que quelqu'un de normal, mais quand même relativement fins par rapport aux passionnés de muscu qui écoutent ce podcast. Et puis, qui donc font des 2000 mètres et dont on considère que c'est une épreuve où on a une des meilleures endurances et résistances de la planète quand on a un niveau olympique sur site d'épreuve. Et en même temps, on peut aussi regarder les championnats de strongman de l'Arnold Classic. avec Eddie Hall et le type qui s'appelle Thor, mais enfin son pseudo c'est Thor, son vrai prénom puis son vrai nom, je ne saurais pas le dire. Mais donc on peut regarder ça. Puis on retrouve aussi, si tu te souviens, Rudy, t'as l'Arnold classique, je crois, de 2008 ou le Strongman de 2008 où tu vois Pudzianowski.
Oui,
tu vois,
ah oui, c'est mieux ça. C'était. Oui, bien sûr, Marius Pudzianowski.
Et c'est Marius Pudzianowski. Et c'est marrant d'ailleurs de voir l'évolution des physiques parce que lui, il était super musculaire. Bon, il devait être chargé, il était beaucoup chargé. Tu sais, il était complètement veineux, musclé, limite culturiste. Et là, quand tu regardes vers 2020, l'Arnold classique, la Thor, le type, t'as l'impression qu'il est encore plus grand, plus large que tous les autres, en fait. Qui... Mais par
bien
contre,
sûr,
il
bien
est
sûr,
pas
c'est un type qui fait 2 mètres, je crois, du style.
Ah non, mais même les autres paraissent petits comparés à ce type-là. C'est du délire. Mais donc, tu vois l'évolution des physiques et tu vois aussi l'évolution des épreuves. On voit qu'il cherche à faire un peu de divertissement. Ça se laisse tout à fait regarder. C'est assez rigolo à regarder. Mais donc, ce qui est marrant, c'est de passer donc des athlètes les plus résistants et les plus endurants de la planète, on va dire, donc ceux qui font du rameur, et après tu passes aux athlètes les plus forts de la planète. Et tu compares leur physique, tu vois, et la différence des épreuves. Donc les épreuves de Strongman, comme chacun le sait, c'est des épreuves qui sont relativement courtes, encore qu'ils essayent de mettre du dynamisme dedans. Et donc voilà, ça va durer parfois seulement quelques secondes si c'est un soulevé de terre, ou des fois faut porter une pierre sur 30 mètres et puis ça va durer 30 secondes ou quelque chose comme ça. Et donc les types, ils font souvent 2 mètres, 160, 180 kilos. Mais je pense qu'ils ont un peu de cardio, mais comme ils sont tellement lourds, ils peuvent pas l'exprimer longtemps, leur cardio, mais ils doivent en avoir parce que des fois, ils sont capables de faire... en reps du squat avec des charges absolument énormes. Il faut quand même un minimum de cardio pour faire ça. Et donc tu compares eux et puis tu compares ceux qui font le rameur, puis tu vois que c'est des physiques et des trucs complètement différents, mais là ça saute tellement aux yeux que tu comprends que fonctionnel ou être le
même. Un hybride, un athlète hybride.
C'est forcément un compromis, quoi, parce que là, c'est pas possible, en fait. Tu peux pas d'un coup faire 75-80 kilos et de l'autre coup faire 180 kilos, en fait. C'est antinomique. Donc, c'est assez marrant de regarder cette différence. Et puis, voilà, ça sautait aux yeux.
On est déçu parce que moi, je voulais tout faire à la fois, quoi. Donc, dans quoi je m'inscris, alors, finalement? La pétanque?
C'est tank. Ouais, mais voilà. C'était très rigolo à regarder.
Non, mais c'est
alors, évidemment, je vous rassure, hein, j'ai pas découvert qu'on pouvait pas être bon en tout en regardant ces deux vidéos, mais c'est surtout que ça saute aux yeux, là, au niveau des profils. Ouais, excuse-moi, Rudy, je t'ai coupé.
Bon, non, y a pas de souci. Non, mais c'est vrai que on voit encore une fois que tout est très spécifique, quoi. Là, des fois, tu vois certains sports, certains sportifs, et tu dis, waouh, ouais, tu fais cette discipline-là, c'est sûr que tu vas avoir un super physique. Sauf que souvent, la personne qui a un super physique dans une activité physique autre que la muscu, ou discipline apparentée, en fait, c'est souvent un coup de bol, quoi. Soit elle fait un peu de muscu à côté, et pas qu'un peu, mais vraiment beaucoup, et c'est ça qui lui donne son physique, et ça l'handicape pas trop pour son activité, sa vraie activité sportive. Mais sinon, c'est souvent un coup de bol, quoi. Moi, j'en ai vu des fois qui faisaient, d'athlètes, puis ils ont des physiques de fou, même du haut du corps, tout ça. En muscu, ils font 3 fois rien. Pareil, en kayak, donc que je connais bien. Tu vois leur séance de muscu, tu te dis, mais tu peux pas devenir musclé en faisant ça. Et puis, t'en as qui sont super musclés en faisant ça. Tu te dis, mais c'est incroyable. Toi, tu fais ça, tu perds limite du muscle à vue d'œil ou quoi. Avec tout le volume cardio à côté et plus les entraînements non adaptés à la prise de muscle. Donc, c'est vrai que pour le commun des mortels que nous sommes, tout est vraiment très, très spécifique. Et, comme tu l'avais dit il y a quelques podcasts, à part la muscu, il n'y a pas beaucoup d'activités sportives qui donnent vraiment un physique de type musclé selon nos standards, quoi.
Ouais, tout à fait. Et alors pour ceux qui se laissent regarder, qui voilà, se laissent à regarder les compètes de l'Arnold Classic, là il y a celle de 2020 qui est en entier avec des petits résumés parfois. On peut même voir que les athlètes, des fois, ils sont très bons à une épreuve et franchement mauvais à une autre. Donc il y a un peu de suspense parce que on n'a pas la garantie que le plus fort gagne et plus fort sur tous les trucs en fait. Des fois il est pas bon parce que l'épreuve était un petit peu plus endurante ou elle était plus sur la poule. Ou des fois c'est plus sur le dos ou plus sur les cuisses ou plus sur l'explosivité, et au final c'est pas toujours le même en fait qui remporte l'épreuve, quoi. Donc ça c'est aussi rigolo à voir, même chez les plus forts, et ben c'est pas toujours le même qui est le plus fort.
ouais mais non, mais c'est pour ça que à chaque fois qu'on parle de compétition, je sais plus avec qui j'en parlais la dernière fois, mais ou comme on avait fait les compétitions super physiques, il y a toujours des gens qui disaient oui, les tableaux super physiques, ils sont pas adaptés au poids de corps de chacun, c'est pas juste, il faudrait vraiment faire un système. Nan, nan. Et j'expliquais comme à chaque fois que, en fait, tout le système de compétition qui existe, à chaque fois, bah, n'a pas vraiment de sens dans le sens où on est tous tellement différents, que ce soit en termes de longueur osseuse, de longueur musculaire, d'influx nerveux, de capacité à recruter ses muscles, de par son hérédité, de par sa psychologie, tout ça, qu'en fait, la compétition, bah, elle est contre soi, j'ai envie de dire, pour ceux qui ont envie, mais elle est certainement pas contre les autres, parce que contre les autres, en fait, c'est tout est spécifique, et si t'es le meilleur des meilleurs des meilleurs, c'est un gros gros coup de chance, et que t'as hérité, et qu'en plus t'as été motivé par tes efforts, tout ça, t'as eu une sorte de cercle vertueux qui t'a amené à performer à fond, mais que ça a pas trop de sens sinon ces compétitions, comme tu le dis, des fois t'as des gars, ils sont hyper forts dans un truc, et puis juste à côté, pour on parle de strongman, un autre truc qui a l'air très ressemblant quand on n'y connaît pas grand chose. Et en fait, ils finissent genre dernier de l'épreuve, dernier sur 10, je vais dire une connerie, alors que justement, ils étaient premier sur 10 sur une autre épreuve qui était apparentée, quoi.
C'est exactement ce qui se passe.
Donc, c'est pour ça que les compétitions, c'est toujours, on dit, ouais, ça sacre le meilleur. Voilà, bon, c'est toujours les trucs comme ça. En fait, ça sacre le gars qui était le plus fait pour et qui s'est pris au jeu le plus tôt prévu. Et puis là, dans le Strongman, en plus, le survivant, le mec qui est pas encore mort de tous les produits qu'il a pris. Voilà, quoi. Là, c'est vrai. Malheureusement. Ouais.
D'ailleurs, je me demande comment leur dos fait pour tenir, mais bon, on saura dans 30 ans.
Ah, bah dans 30 ans, ils sont tous morts. Non, mais ils auront peut-être pas le temps d'avoir mal au dos, ils seront déjà tous morts.
Je sais pas. Non, mais parce que ceux des années 80, je sais plus comment ils s'appelaient, la Magnus, je ne sais quoi. Enfin, bon, comme je suis pas passionné à fond de Strongman, je veux pas dire de bêtises. Parfois, ils sont là comme accompagnants de l'épreuve. Donc, manifestement, ils sont encore vivants, ceux-là. Mais voilà.
Ouais, ouais,
à voir, en tout cas pour ceux qui ont la Smart TV et qui veulent regarder le YouTube et des choses intéressantes sur le YouTube.
Allez plutôt sur la chaîne Rudy Koya et regardez des vidéos d'analyse morpho-anatomique pour apprendre à personnaliser votre programme. Là, vous allez vous régaler. Là, vous allez apprendre quelque
chose. Ok, Rudy. Ben... ouais.
Bon, avant qu'on attaque des questions du forum ou d'autres actualités, je voulais faire un petit point sur l'application SP Training. Donc, pour ceux qui suivent mes différents podcasts et un peu les réseaux sociaux, vous avez pu voir que la version iOS était sortie. Donc, copie conforme de la version sur Android, qui avait été plusieurs fois mise à jour suite à vos recommandations, à vos suggestions que vous aviez pu mettre sur les forums Superphysique, qui sont toujours, topic est toujours ouvert. Donc, si ça vous intéresse de participer à l'amélioration de l'application, de faire vos retours et suggestions, n'hésitez pas à aller sur forum Superphysique, donc superphysique.org puis forum. Vous tomberez facilement sur le sujet de l'application. Il y a Pierre qui répond, donc le développeur. Donc là, elle est sortie sur iOS. Et donc, moi qui suis sur iOS, j'attendais ça avec impatience, bien que j'ai pu la tester un peu en amont, que j'ai pu échanger avec Pierre ces dernières semaines, ou j'ai envie de dire, quand je dis ces dernières semaines, c'est deux dernières années de semaines pendant lesquelles il a développé l'application. Là, c'est un peu ça. Voilà.
Je suis témoin. Rudy, n'exagère pas. C'était bien plus de 2 ans.
Voilà. Et donc, bah, là, je suis vraiment content qu'elle soit sortie parce que c'est vrai qu'elle correspond pour l'instant, donc ça fait pas longtemps qu'elle est sortie, mais exactement à ce que j'attendais, à ce que j'espérais. Et ce petit chat Rudy dont on parlait il y a 2 semaines avec Fabrice, c'est vraiment pour moi une grosse révolution. Alors je dis révolution, certains diront que je suis pas objectif et peut-être que je le suis pas, mais c'est vrai que là, on arrive pratiquement, je dis bien pratiquement, à ce que je fais faire à mes élèves chaque semaine en fonction de ce qu'ils ont fait. Alors certains vont dire « Ah ben la progression est trop lente », donc on va dire « Elle est trop rapide ». On essaye de s'adapter au mieux. Ça remplace pas un coaching, comme je l'ai déjà dit, parce qu'il n'y a pas le côté humain, il n'y a pas la discussion, il n'y a pas la correction des exercices en vidéo. Mais pour ceux qui ont leur programme ou qui prennent un programme du site Superphysique qui sont déjà intégrés dans l'application, ça permet de progresser à ce qui est, selon moi, la bonne vitesse par rapport à tout ce que j'ai pu expérimenter sur des milliers de personnes, donc depuis 2006, depuis le temps que je coach. Et donc, vous passez également vos petits niveaux. À chaque fois que je passe un petit niveau, donc c'est marrant parce que là, ça fait une semaine que je l'utilise, donc je mets une petite story, tout ça. Mais c'est vraiment super, quoi. Vraiment, je suis très très content. Et ce qu'il y a de fort, parce qu'on pourrait nous dire, ouais, mais c'est juste un cahier d'entraînement, tout ça. Vraiment, ce petit chat en plus, cet algorithme et arbre décisionnel, pardon, je perds un peu ma voix, qu'on a mis en place, que Pierre a mis en place en me demandant de théoriser un peu plus ma méthodologie. Bah, fait vraiment un super, super, super boulot. Donc, et ça, ça peut pas être concurrencé. C'est le truc qui est un peu fort. C'est parce que je crois que, sans trop me tromper, je suis le seul à avoir autant d'expérience en termes de suivi hebdomadaire en disant quoi faire à chaque personne en termes de nombre de répétitions, en termes de temps de récupération, de nombre de séries, de charges à mettre, tout ça. Et donc, le petit chatbot va moduler ces différents facteurs chaque semaine en fonction de ce que vous avez fait pour vous aider à mieux progresser et donc à faire exactement ce dont vous êtes capable, qui va vous faire gravir une marge de plus, et chaque semaine une petite marge de plus, et parfois pendant très 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 longtemps, comme j'ai souvent dit, des fois j'ai des élèves pendant 52 semaines, pendant un an de suite, ils font que progresser. Alors bien sûr, c'est les contre-exemples, les exceptions, mais qui peut vous faire progresser pendant très 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 longtemps, et ensuite bah ça vous fera recycler comme il faut, aux bonnes charges, faire des bons déloads, on en reparlera peut-être après, voilà. Donc c'est vraiment cool. Donc je le rappelle pour ceux que ça intéresse, donc c'est SP Training, c'est sur iOS et sur le Play Store, donc l'App Store et le Play Store. Il y a un mois gratuit avec toutes les fonctionnalités, donc c'est gratuit, vous avez accès à tout. Vous êtes évidemment pas obligé de vous abonner par la suite ou quoi que ce soit, vous pouvez enlever l'abonnement, tout ça. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous faire des retours, à la tester, à dire ce que vous aimeriez, ce que vous n'aimeriez pas. On va pas tout mettre en place parce qu'il y a des choses qui, on va dire, qu'on n'incite pas avec notre vision de ce qu'il faut faire pour progresser en muscu. Elle s'adresse pas aux pratiquants confirmés. Elle s'adresse aux pratiquants débutants, semi-débutants, intermédiaires, qui savent pas trop comment faire, aux personnes qui font de la muscu par intermittence, qu'en font, qui arrêtent parce qu'elles progressent pas. Donc, bref, c'est vraiment ça notre cible. Sinon, bah, après, on va plus vers un coaching, on va dire, vraiment personnalisé, sur le choix des exercices, l'amplitude, tout ça. Bref, c'est pas le sujet. Ouais, c'est vraiment un gros truc. Donc, ouais, l'essayer gratuitement. Et si vous souhaitez participer donc à son évolution, parce que l'application elle est avant tout pour vous, hein. Nous ça fait bien longtemps qu'on a fait entre guillemets le tour du sujet, et qu'on s'entraîne plus par plaisir que pour progresser, étant plus investi dans d'autres activités, aussi bien Fabrice que moi-même, et ben n'hésitez pas. Le but c'est vraiment que elle vous aide du mieux possible, et donc vos retours sont fortement appréciables, notamment sur les forums Superphysique. Sinon vous pouvez directement m'envoyer un message via mon site rudycoya.com. Il y a un lien contact et je me ferai un plaisir de transférer à Pierre ou de mettre sur le forum pour qu'on en discute tous ensemble. Bon, tiens, voilà. L'application est lancée, 7v3 est enfin là et elle est super. En tout cas, moi, je trouve qu'elle est super et j'espère que vous la trouverez également super. Enfin, avant qu'on continue, merci d'avance à ceux qui prendront le temps de mettre 5 étoiles sur 5 sur le Play Store ou l'App Store. Ça aide énormément. Encore une fois, plus il y a de monde qui l'utilise, plus on aura de retour, plus on pourra l'améliorer. Plus ça va générer d'argent et plus on pourra la faire grossir. C'est toujours le même but depuis le début avec Superphysique, c'est permettre au plus grand nombre de progresser, de moins perdre de temps, de réduire son risque de blessure. Et l'application est un bon moyen pour tous ceux qui n'ont justement pas les moyens de payer un coach. C'est quand même près de 15 fois moins cher qu'un coach en moyenne, l'application, alors qu'elle fait beaucoup plus que malheureusement, j'ai envie de dire, la plupart des coachs que je peux voir un peu partout. Voilà.
Il faut dire que c'est une IA, Rudy. Il faut pas
parler d'arbre de décision. Non, c'est pas une IA. C'est pas une IA.
C'est bien, mais les trois quarts des trucs dont on entend parler qui, comme des IA, en réalité, c'est des arbres de décision la plupart du temps. Puis,
c'est pas un IA. Attention, je suis contre l'IA et c'est pas l'IA.
Ok, bah du coup, on n'a plus qu'à répondre à des questions maintenant, Rudy.
Mais je crois que tu avais vu un super documentaire qui t'avait surpris, Fabrice, avant ça.
Ah oui, j'avais oublié sur mon post-it. Bah oui, toujours avec ma Smart TV. Donc un documentaire, je sais pas si super que ça. C'était un documentaire sur le, un documentaire sur au Royaume-Uni qui parlait d'une épidémie de l'usage des stéroïdes chez les 16-24 ans au Royaume-Uni. Et voilà, et donc le documentaire d'expliquer que notamment à cause des influenceurs, voilà, selon le terme consacré, de ceux qui sont sur YouTube et tout ça, plus les jeunes qui soit veulent ressembler à les influenceurs, soit qui eux-mêmes veulent devenir influenceurs, plus aussi dès qu'ils n'ont pas la patience d'attendre pour avoir des gains en salle, comme Rudy on a déjà parlé plein de fois, et ben en fait il y a beaucoup de dopage et ils expliquaient que c'était la drogue la plus consommée après la marijuana. Donc c'est pour ça qu'ils parlaient d'épidémie. Et il montrait aussi, il parlait des effets secondaires, et notamment ceux qui développaient une gynécomastie. Et comme c'était un documentaire au Royaume-Uni, c'était un petit peu plus trash qu'en France, et on voyait même une opération de gynécomastie, donc où on voit le chirurgien qu'enlève carrément un bout de sein à un type qui s'est dopé. Et ce qui était dingue, c'est que le type qui s'était dopé, il disait qu'il allait continuer à le faire dans la salle d'attente parce que il avait pas envie de perdre le physique qu'il avait. Et surtout, quand il s'est mis torse nu pour après passer sur la table d'opération, et ben en fait, il avait un physique tout pourri. Mais un petit peu gras, un peu musclé au niveau des épaules et des bras, mais là, pour le coup, à la salle, je l'aurais pas reconnu comme dopé tellement il avait un physique pourri. Et donc, et ben voilà. La moralité, c'est qu'en fait, dans les salles, manifestement, il y a beaucoup de choses qui ont changé par rapport aux années 90-2000, où ceux qui se dopaient, ben, ils étaient plutôt marginaux. Et souvent, bah, c'était ceux qui voulaient vraiment ressembler à des gros culturistes. Alors que là, bah, en fait, les gens se dopent simplement pour avoir un peu de physique et bien présenté sur YouTube ou même pas.
J'étais un peu gras et un peu costaud.
Ouais. Donc c'est vrai que c'était un peu un choc. En fait, enfin, c'était un peu un choc. Je m'y attendais, mais pas dans ces proportions. En fait, j'ai l'impression que tout ce pourquoi on s'est battu avec Super Physique, mais je crois que je l'avais peut-être déjà dit dans un podcast, on a échoué en fait. Parce qu'on voulait promouvoir la musculation naturelle et les bons conseils, et au final, c'est pas du tout la musculation naturelle et les bons conseils qu'on gagnait. Encore que si, il y a quand même des gens qui s'entraînent bien en salle, mais j'avais sous-estimé tous ces produits dopants. Alors je sais pas si c'est pareil en France, mais en tout cas là vraiment, dans le reportage, ils disaient que c'était très généralisé au Royaume-Uni. Ils disaient qu'il y avait 1,5 million de jeunes qui s'étaient déjà dopés. Enfin bon, un truc de dingue, Rudy.
Ouais, non, mais après c'est pas si surprenant. Hein. Quand j'avais été au Canada, j'ai souvent raconter cette anecdote. En fait, là-bas, dans les salles, tout le monde avait au moins le gabarit taille poids, quoi. Pas sec, hein, mais tu vois, un peu gras, mais tout le monde. Et quand je parlais avec les gens, en fait, tu sais, je posais des questions, je dis, ouais, un tel, il prend des trucs ou quoi, nanana. Et en fait, on me disait, mais en fait, tout le monde ici prend des trucs. Tu sais, tout le monde avait déjà testé. Pour eux, c'était normal de prendre des produits, de tester. Il n'y avait pas d'histoire de naturel, pas naturel. Quand quelqu'un se disait naturel, en fait, ça veut dire qu'il n'en prenait pas tout le temps ou qu'il prenait pas d'hormones, qu'il prenait juste des anabolisants. En fait, tout le monde était dopé. Donc,
ouais, mais ton truc du Canada, ça date de quand, Rudy? C'était 2016 ou quelque chose comme
2013.
Ça? 2013. Ouais. Ah ouais, tu vois, c'était il y a 10 ans. Mais en fait, maintenant, comme c'est tellement facile d'avoir les produits par Internet, et ben, c'est vrai que ceux qui n'ont pas, comment dire, une espèce d'éthique pour le naturel, et qui n'ont pas peur des effets secondaires, parce que finalement, ils n'ont pas l'air d'avoir peur des effets secondaires, et ben du coup, ils y vont, en fait. C'est vrai que c'est tellement galère de s'entraîner sans dopage que c'est un peu comme le catholicisme, puis croire en Dieu et faire tes prières en espérant aller au paradis, tu vois. C'est un peu ça, quand même, s'entraîner sans prendre de produits dopants. Faut le vouloir. C'est un genre de purgatoire avant l'heure, tellement c'est dur de progresser. Donc forcément, ceux qui font de la muscu, surtout pour les résultats, comme c'est tellement facile, de ce que je comprends, ils y vont, quoi. Et voilà. Donc la situation est bien pire que ça n'était par le passé.
Bien sûr. Mais ouais. Comme j'avais résumé un coup, avant, comme tu l'as dit, c'était les professionnels, ceux qui voulaient en vivre, qui étaient vraiment doués, qui se dopaient. Du moins, c'est ce qu'on voyait. Maintenant, c'est le dopage de l'amateur. Et l'amateur pourri. L'amateur qui veut pas se donner la peine, qui veut pas suivre sa diète, qui veut pas s'entraîner dur, du moins qui a pas le truc, qui veut pas s'informer, qui est pas vraiment passionné, il va se doper. Et donc, on a plein qui se dopent, qui ont des physiques pourris. Hein. Ça fait longtemps que j'ai pas été sur les forums. Je crois qu'il en existe encore un ou deux francophones où les mecs se dopent, tout ça. Mais à l'époque, il y avait Body Info qui a duré peut-être pas 10 ans, mais bien 4-5 années. Et en fait, là-dessus, tu voyais plein de types déjà qui se dopaient, qui avaient des physiques. Tu te disais, mais c'est pas possible, ils se dopent pour ça. Et les mecs étaient affreux, étaient gras, pas tous, hein, mais il y en avait beaucoup qui avaient des physiques. Tu te disais, mais attends, il suffirait que tu t'entraînes correctement, que tu laisses faire le temps et tu serais mieux que ça, en fait. Mais
ouais, voilà, tu laisses faire le temps.
Ah ouais, mais bon, là, ton gars, j'ai parlé de documentaire, il a un physique un peu lambda, un peu gras, juste costaud. Franchement, il avait juste à s'entraîner un peu, à bouffer des pizzas, et puis voilà, quoi. Il aurait été aussi gras. Puis il n'aurait pas eu le bon d'opération.
Voilà, il avait des. Ouais. Il avait des seins en bonus, là. Oh, bah, bref. Mais voilà. Puis après, il fait son opération gynécomastie. Et le chirurgien, donc, expliquait que quelquefois il enchaîne les opérations, si j'ai bien compris, et qu'il y en avait déjà une certaine partie, c'était des types qui avaient pris des stéroïdes. Donc c'était pas des adolescents qui avaient des problèmes naturels d'hormones, c'était des types qui avaient pris des stéroïdes. Ouais.
Bah ouais, ça m'étonne pas du tout. Là, je veux pas balancer, mais là, même pareil, dans n'importe quel sport, là, on voit pas mal de, moi, je suis le site sp15.fr, pour ceux qui connaissent. Et ceux qui connaissent pas, vous pouvez aller voir. C'est un site qui est un peu consacré à l'athlétisme. Et donc, pas tous les jours, mais ils font un gros travail d'investigation, de documentation, tout ça. Et à chaque fois que quelqu'un est pris pour dopage, bah, ils mettent et ils expliquent ce qui s'est passé, nanana, vraiment. Ils vont faire des choses et tu vois des trucs, des fois, qui tombent. Tu te dis, mais c'est incroyable, quoi. Jamais tu penserais que des gens se dopent pour faire ces perfs-là ou quoi. C'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Ça s'est démocratisé, quoi.
Voilà, ça s'est démocratisé.
Malheureusement.
Ok.
Mais oui. Alors, il y a une question que j'ai sélectionnée à laquelle je voulais pour répondre. Donc, c'est une question de Billy H. Il a mis le 9 avril, donc une question récente. Bonjour, je m'entraîne depuis 2 à 3 ans en musculation. Et j'ai changé de programme il y a quelques temps. J'en suis à la 6e semaine de programme. C'est un entraînement 4 fois par semaine. Pull, push, leg, reste, donc repos, upper, reste. Donc une séance haute du corps. Dans mes séances du PPL, je commence par un exercice en 3x5 répétitions. Traction lestée pour le pull, développé couché pour le push et soulevé de terre pour le leg. Puis je passe à une partie plus hypertrophique sur les autres exercices. Mon objectif est de prendre de la force sur ces mouvements, mais aussi et surtout de me muscler. Lors de la séance upper, je commence donc aussi par du développé couché, des tractions lestées, mais en série plus longue. Je progresse bien sur les performances avec ce programme depuis que j'ai commencé et j'essaie de suivre de près ma diète. 2800 à 2900 calories, très légère prise de masse maintien. La semaine prochaine, je ne pourrai pas m'entraîner. Je pourrai m'entraîner, mais pas dans la même salle que d'habitude. Pas les mêmes bancs, la même Smith, la même barre de traction. Je m'étais dit que ça pourrait être l'occasion de faire une semaine de déload. Premièrement, est-ce une bonne idée? Deuxièmement, comment bien mettre ça en place? J'ai vu qu'on pouvait par exemple baisser de 40% la charge de travail. Mais j'augmente le nombre de répétitions? Car si je fais du développé couché à 50 kg pour 8 à 12 répétitions, par exemple, ça risque d'être très facile. Alors c'est peut-être le but. Troisièmement, comment reprendre après un déload? Aujourd'hui, par exemple, j'ai débloqué un palier au développé couché en validant à 3x5. Si je décharge la semaine prochaine, est-ce qu'à la reprise, je continue la progression en augmentant ma charge au développé couché, comme j'aurais fait en temps normal? Ou est-ce que je repars de plus bas? Ou à la même charge que j'ai déjà validée? Merci beaucoup. PS, avant ces 6 semaines, je m'entraînais déjà 4 à 5 fois par semaine. C'est juste que depuis 6 semaines, j'ai arrêté de changer de programme tous les mois en me concentrant vraiment sur quelque chose et en traquant ma diète comme il faut. Fabrice, qu'en penses-tu?
Ouais, bah je vais te laisser répondre au truc. Je vais élargir sur l'intérêt ou pas du déload, parce que c'est vrai que nous on n'en parlait pas avant de ce truc-là de déload. Alors nous dans les années 2000 au début, ben on faisait pas de déload, on s'entraînait le plus dur possible à chaque fois et on a vu que ça marchait pas bien. Il y en avait qui progressaient ou il y en avait qui progressaient un petit peu, mais on finissait toujours par stagner. Et puis c'est après qu'on en est arrivé à cette histoire de cycle de progression dont on parle tout le temps, où en gros l'idée c'est qu'on démarre avec des entraînements qui sont plus faciles, moins lourds ou moins de rep par exemple, et puis petit à petit on augmente, et l'idée c'est de maintenir le cycle, la progression du cycle le plus longtemps possible. Mais en tout cas dans les cycles de base, il y a pas vraiment de déload, parce que l'idée c'est de faire un petit peu plus à chaque fois, et tant qu'on peut faire un petit peu plus à chaque fois, eh ben on continue. En gros, c'est ça l'idée du cycle de progression basique, et avec l'idée que si jamais on met un déload là-dedans, au contraire, ça va peut-être casser la bonne machine, alors que si le cycle, eh ben il fonctionnait bien et que par exemple on ajoutait une rep par-ci, une rep par-là, par exemple aux élévations latérales, eh ben on continue tant qu'on peut, et puis voilà. Et éventuellement, à un moment donné, on diminue le nombre de reps, puis on augmente un peu la charge. Mais voilà, en gros, l'idée, tant qu'on peut avoir une toute petite progression chaque semaine, eh ben, on l'a fait. C'était l'intérêt du cycle de progression. Et du coup, cette histoire de déload, il y a deux aspects. On peut voir un aspect pour préserver un petit peu ses tendons et ses articulations. C'est-à-dire que si on s'entraîne presque à fond tout le temps, même si on est très content de progresser, en admettant qu'on arrive à progresser à chaque fois, eh ben le problème, c'est qu'on est toujours un petit peu en surcharge ou en tension tendineuse articulaire. Est-ce qu'il faudrait pas, de temps en temps, même si ça perturbe la progression, utiliser des charges plus légères? Ça, c'est la première question que je te pose, Rudy. Parce que, par exemple, dans les programmes de rameurs que j'ai vus, c'est vrai qu'il y a toujours des semaines de déload. En fait, souvent, les programmes, ils sont organisés sur 4 semaines. Et tu as une semaine, on va dire, facile, moyenne, difficile Et après, à nouveau, une semaine facile ou très facile. Tu vois, c'est toujours des cycles. Il n'y a jamais cette notion d'être à fond tout le temps. C'est vraiment intégré au programme. Donc ça, c'est... Mais du coup, eux, ils font ça pour préserver le corps et la récupération. Je sais pas si c'est tendineux ou je sais pas si c'est lié aux tendons et aux articulations. Donc, première question, est-ce qu'il faut faire des déloads pour laisser aux tendons et aux articulations se reposer, Rudy? Et autre question, est-ce qu'il faut faire des déloads, y compris à l'intérieur d'un cycle de progression, alors que tout a l'air de très bien marcher, mais quand même pour peut-être redonner du souffle au cycle et se dire qu'il pourra encore durer plus longtemps si on fait un déload. Voilà les comment je généraliserais la question.
Bah, c'est les bonnes questions parce que en fait, toutes ces histoires de cycles, c'est quand je me suis intéressé vraiment à ces histoires un peu de préparation physique de manière générale et que j'avais commencé mon podcast Les Secrets du Kayak, je m'étais aperçu que il faisait ce qu'il appelle des cycles de développement. Je me dis, mais c'est quoi ces cycles de développement? Qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, il me dit, on fait soit on fait des cycles de développement de 3 semaines et on fait 1 semaine plus tranquille, soit on fait des cycles vraiment intenses et dans ce cas-là, on tient 2 semaines et ensuite, on fait 1 semaine de récup. Et donc, je me suis dit, d'où est-ce que ça sort? Donc, j'ai questionné les entraîneurs, la plupart qui ont été entraîneurs nationaux, et j'ai dit, d'où ça sort? Et donc, personne n'a été capable de me donner une vraie réponse et je dis, et est-ce qu'il y a quelque chose à regarder ou pas? Et je me suis souvenu des cours que j'avais eus quand j'avais passé mon BE, et notamment qu'on avait analysé la préparation physique de Werner Gunther, le lanceur de poids, par rapport à ce que Jean-Pierre Higuard lui avait proposé. Et donc, quand je me suis bien intéressé à tout ça, Jean-Pierre Higuard, effectivement, a toujours fonctionné sur ce truc-là, mais pareil, c'est un truc d'expérience. Il n'y a absolument rien en dehors de l'expérience de quelques-uns, a priori des pionniers, qui expliquerait pourquoi on prendrait un déload après 3 semaines d'accumulation ou 4 semaines ou 5 semaines. Avec Clément, on en a pas mal parlé, notamment dans le podcast Spécial Force, où en fait le cycle continue, entre guillemets, tant qu'on n'est pas RPE 10, hein, tant qu'on est RPE 7, 8, 9, et ben on continue de monter. Mais en fait, c'est plus un truc issu de la préparation physique, sans de vrais fondements. Donc, je ne sais pas vraiment d'où ça sort. Donc, peut-être que quelqu'un dans les commentaires pourra nous dire ça vient de l'école russe, ils ont fait ça, tout ça. Et dans ce cas-là, je dirais l'école russe, on ne sait pas trop d'où ça sort non plus. Hein. Mais bref. Ensuite, ta deuxième question, c'était est-ce que ça peut permettre de prolonger un cycle? En fait, c'est même pas dit. C'est même pas dit que ça permette de prolonger un cycle parce que là, comme veut le faire Billy, et pour répondre à sa deuxième question, j'ai vu qu'on pouvait baisser par exemple de 40% la charge de travail, mais ça, c'est le pire truc à faire. Il y a un excellent bouquin, je pense que c'est inspiré des travaux de... je vais écorcher son nom. Bref, du spécialiste mondial de l'affûtage, donc du déload, qui lui est arrivé plutôt à la conclusion, d'après ce qu'il a pu voir, ce qu'il a pu tester, voilà, ce qu'il a pu valider scientifiquement, ça avec des guillemets, c'est qu'il fallait plutôt diminuer le volume d'entraînement et non pas la charge. Que si on voulait éviter notamment de perdre d'un point de vue nerveux, ce qui comptait, c'était plutôt, je donne un exemple, là il fait 3 x 5, ce serait de faire 1 x 5 à la même charge de travail, ou alors de faire 3 x 3 au lieu de 3 x 5 à la même charge, parce qu'on s'est aussi rendu compte, et je pense que tu pourras le confirmer Fabrice, c'est que quand on part quelque part et qu'on s'entraîne vraiment très léger, donc il baisse de 40% de sa charge de travail, en fait, nerveusement, ça suffit à perdre. Parfois, ça suffit à perdre. On se dit, ah merde, putain, quand je remets le poids paraît lourd, je me suis un peu déconditionné nerveusement, j'ai pas perdu le mouvement, mais j'ai perdu une sorte de désensibilisation. J'ai réaugmenté mon déficit de force, j'ai réaugmenté le seuil d'activation de mes différents récepteurs, que ce soit les fuseaux neuromusculaires, Golgi et autres. Et donc, c'est vraiment pas le truc à faire. Ce qu'il faut faire, c'est plutôt diminuer le volume. Donc 3 x 3 ou 1 x 5. 3 x 3, ça me paraît bien. Si tu changes de banc, ça devrait bien se passer. Ensuite, c'est vrai que nous, au début, on n'avait pas du tout cette histoire de déload. Et même d'un point de vue classique en musculation, pour prendre du muscle, pour nous, le déload, il est inclus directement dans la philosophie, la méthodologie des cycles de progression. Pour ceux qui vont utiliser SP Training et qui découvrent un peu cette méthodologie-là, en gros, c'est une connerie, vous faites un cycle, j'ai caricaturé exprès, hein, parce que c'est bien plus compliqué que ça. Je vais survivre. En gros, vous montez en série de 10, vous montez progressivement, petit à petit. Et pareil, là, il peut y avoir débat. Certains disent qu'il faut monter très rapidement, d'autres qu'il faut monter très doucement. Moi, j'ai plutôt tendance d'expérience à faire monter très doucement et à prolonger la progression au maximum. Mais moi, tant qu'on est très loin de son potentiel, c'est-à-dire pour la majorité des gens, vous commencez en série 10 à 50. Au bout de, je sais pas, 15 semaines, vous avez bien géré tout ça. Vous êtes en série de 10 à 65. Vous êtes à fond en RPE 10. Bah là, moi, je vais pas appeler ça un déload, je vais appeler ça un recyclage. Et on va repartir. Encore une fois, je simplifie. En série de 10 à 55 kilos, je vais enlever 10 kilos et on va remonter. Et sans doute que 15 semaines après, on sera à 70 kilos. On n'aura rien ni 5 kilos, voire plus. Voilà, c'est juste un exemple. Et donc, le déload, en fait, est le début du cycle. Alors, bien sûr, quand on fait 10 à 55, 10 à 56, 10 à 57, on monte, si on monte comme ça chaque semaine, encore une fois, je simplifie. C'est sûr que de refaire 10 à 65, quand ça fait 3 semaines qu'on n'a pas mis plus de 60, ça va être compliqué. Si on doit faire 3 séries de 10, peut-être qu'on les a plus. Mais c'est temporaire et c'est pas grave, parce que le but, c'est de progresser sur le moyen et long terme. Le but, c'est qu'à chaque cycle, on aille un peu plus haut. Donc, c'est directement induit dans la progression, dans le cycle de progression. Donc, il n'y a pas de raison d'en faire. De plus, actuellement, c'est pas mal remis à débat, cette histoire de déload. J'ai vu un article, une dernière fois, de Stéphane Morin, qui fait des super articles, notamment sur Facebook, qui est un préparateur physique qui travaille pas mal dans le foot, et justement, qui remettait un peu en cause cette histoire d'affûtage, de déload, tout ça, en disant que pour lui, sur le terrain, il avait vu que si tu réduisais ton volume d'entraînement, et il parlait surtout de cette sportive de niveau qui avait un gros volume d'entraînement, il dit, bah, tu perdais rapidement des adaptations que tu avais eues de ce volume d'entraînement et donc tu arrivais moins performant à la compétition. Lui conseillait plutôt de ne rien changer en termes de volume d'entraînement et de pas diminuer l'intensité tant que ça à l'approche de la compétition. Je le paraphrase un peu, il m'en voudra pas si c'est pas tout à fait ça, mais c'est ce que j'ai retenu en tout cas. Donc, moi, je conseillerais pas de faire spécialement un déload pour Billy. Tu pars, entre guillemets, en vacances, tu seras pas chez toi. Pas de déload. Si vraiment les bancs tout ça sont pas bien parce qu'a priori t'es pas si fort que ça, en gros, de ce que je comprends, si t'enlèves 40% de ta charge de travail, ça veut dire que tu fais du coucher en gros à 80 kilos en 3 séries de 5. Normalement t'as pas mal de marge de progression. Franchement, moi j'essaierai de continuer ma progression. À mon avis, tu vas pas être si impacté que ça par le changement de matos. Plus tu débutes, moins t'es impacté, plus t'es avancé, plus le matos compte. Si jamais, voilà, tu te mets sur le banc, tu t'échauffes, t'es pas bien parce que t'as pas tes habitudes, tout ça. Et ben, dans ce cas-là, je ferai un petit déload, comme j'ai dit, 3x3 à ta charge de travail ou 1x5. Voilà. Et je continuerai ce que je fais. Mais si, malheureusement, certains nous écoutent ou Billy est déjà parti en vacances au moment où il va nous écouter et qu'il a enlevé ses 40% et qu'il se dit comment reprendre après un déload, ben là, tu pourras, à mon avis, tu pourras pas reprendre directement à 80 kilos si tu t'entraînais à 50 kilos pendant une semaine. La sensation du poids et ta désensibilisation, ta resensibilisation, on va dire, de tes récepteurs, va faire que tout va être très dur et nerveusement, tu ne seras pas dedans. Bien sûr, d'un point de vue musculaire, il n'y aura pas de souci, mais la force, c'est avant tout une adaptation nerveuse. Et quand je dis une, c'est des adaptations nerveuses en termes de synchronisation intramusculaire, en termes de récepteurs, qu'est-ce qui laisse passer, qu'est-ce qui laisse pas passer, qu'est-ce qui inhibe, qu'est-ce qui inhibe pas. Qu'est-ce qu'il laisse passer, c'est plein de petits trucs comme ça qui font que si tu diminues trop, bah tu peux pas reprendre comme prévu. Dans mon exemple que j'ai donné, si tu fais 10 à 55, 56, 57, voilà, tu les fais plus les 65, mais c'est pas grave parce que tu vas faire bientôt 70 si tout va bien et que t'es pas malade et qu'il y a pas de souci. Donc ouais, c'est vraiment un truc qui est arrivé avec le power. Mais ouais, c'est plus une réduction du volume, mais pas de l'intensité. Et encore une fois, en termes de préparation physique, et même dans les cycles de rameur que tu peux voir tout ça, en fait, ça sort de nulle part. Alors, ça peut s'expliquer théoriquement par le fait que, comme tu dis, les tendons et les articulations, une semaine, j'ai pas l'impression que ça permette de renforcer tant que ça. Ça permet de rattraper le retard de, comment on pourrait dire, de renforcement entre les muscles, les tendons et les articulations. J'y crois moyennement qu'une semaine suffise. Mais il y a aussi la récupération un peu psychologique. Tu vois, je vois plus comme ça. Si t'as forcé pendant 3 semaines comme un fou, voilà, je sais pas, tu fais un cycle, t'es dans ton truc, tu fais ton rameur, voilà, t'es en fin de cycle, tout ça. Bah, ouais, si tu fais une semaine plus facile, peut-être que psychologiquement, ça va bien se passer. Je me souviens, pour l'anecdote de Gilles Pinero, qui était dans la team Superpower, à qui j'avais fait la planif une année où il a fait son meilleur total équipé à l'époque, si jamais, en moins de 90 kilos dans les anciennes catégories. Et bref, et donc je voulais le faire monter progressivement tout ça. Et donc on avait démarré, j'avais dit on démarre facile, on va faire ça, voilà le plan Gilles, comment ça va se passer. Et lui en fait il détestait les séances faciles, c'était vraiment pas son truc. Et je crois dès la deuxième semaine il a rempli l'objectif qu'on avait fixé en série de 10. Et donc bon bref, encore une fois il y a aussi également tu vois une part de psychologie. Pour moi ce déload, ces semaines entre guillemets moins volumineuses sont plutôt destinées à se reposer psychologiquement plutôt qu'à se reposer physiologiquement. Parce que normalement, si ton entraînement est bien calibré par rapport à toi, est vraiment personnalisé, bah, normalement, ça doit bien se passer. Donc, ça soulève un autre problème, c'est que la plupart des entraînements sont pas personnalisés, sont très généralisés. Et donc, on n'adapte rien. Alors après, dans l'aviron, justement, quand j'avais interviewé Gauberet, il expliquait que c'était quand même pas mal personnalisé depuis qu'ils avaient eu leur nouveau chef directeur de la performance. On va dire ça comme ça. J'ai oublié son nom. Mais et que il y avait plein de questionnaires à remplir, plein de choses qui pouvaient faire adapter la séance entre guillemets le matin même, mais dans beaucoup d'activités en fait c'est la séance générale pour tout le monde et donc forcément le déload entre guillemets la semaine facile peut permettre un repos psychologique qui peut ce coup-ci s'entendre à l'heure où on parle de plus en plus de préparation mentale, d'entraînement mental et compagnie. Voilà Fabrice.
Ok, d'accord. Ok, je vois ton point de vue. Effectivement, je me posais la question. On aurait pu, pour ceux qui font de la muscu pour l'hypertrophie en général, le repos, au contraire, c'est pas un repos. Enfin, le déload, si on peut dire, c'est pas un repos psychologique. Au contraire, on est tous stressés parce qu'on a peur de perdre ses muscles et de perdre sa force pendant la semaine de repos. Et justement, on déteste se reposer. Et du coup, au final, on a, comme tu dis, à part quand on recycle. On s'entraîne quand même toujours de manière assez intense. Et effectivement, le problème que je voyais, c'était de se dire, bah, si finalement tu mets 6 mois avant de recycler, d'un côté c'est bien parce que t'as eu 6 mois de progression, mais voilà, pendant 6 mois, t'étais avec une intensité toujours plus impactante pour tes articulations, tes muscles, tes tendons, et voilà. Et ça m'étonnait que en aviron. Le principe du cycle soit beaucoup plus court, quoi. Je sais, ça ressemblait un peu à la périodisation, là, avec le mésocycle.
Oui,
le
bien sûr, bien sûr. Mais...
Le macrocycle.
Ça reste les bases, mais ça reste les bases de la planification.
Exactement. Mais si tu veux, en muscu pour l'hypertrophie, en fait, il y a, dans le temps, si tu te souviens, dans tes cours BPGEPS, t'avais ces histoires-là de cycles de force, de cycles d'hypertrophie, etc. Bon, ça, on avait vu que tout ça, c'était des conneries, mais on continue à penser que ça, c'était des conneries. Mais effectivement, quand même, l'idée d'avoir des espèces de vagues successives d'entraînement en termes d'intensité, c'est vrai que nous, on le fait pas vraiment, sauf ce que t'as parlé de recyclage. Et donc, je me disais, peut-être que... on manque de recyclage plus fréquent et que ça se trouve, nos articulations et nos tendons en bénéficieraient. Parce qu'imaginons quelqu'un qui progresse pendant 6 mois au squat, par exemple, bah, ça veut dire que pendant 6 mois, tu vois, il met toujours de plus en plus lourd sur son dos et peut-être que ça lui aurait fait du bien qu'il s'arrête. Mais peut-être pas, parce que ça se trouve, s'il se repose et puis il met un petit peu moins lourd, il met un peu moins de volume, vu que là, t'as recommandé de mettre moins de volume, mais à peu près aussi lourd, et ben, bah, ça se trouve, après, quand il reprend le truc normal, et ben, bah, il a moins confiance en lui, ou au contraire.
Et après, il a des combattures de chiens.
Voilà, ou peut-être qu'il est finalement sa semaine de déload, ou je sais pas comment on l'appelle, ça lui a fait perdre de la force, et après, quand il reprend au final, eh ben, il a des moins bonnes sensations qu'il n'avait avant d'arrêter, puis ça se trouve, il va se blesser, alors qu'il se serait pas blessé s'il n'était pas arrêté. Bah, bref. C'est vrai que ça m'avait un peu perturbé de voir que y avait beaucoup plus de petits cycles dans les programmes d'entraînement que je voyais que par rapport à ce que nous on faisait. Alors je me demandais si peut-être on se reposait pas assez, mais voilà, t'as donné ton point.
Ouais, bah je sais pas si on se repose pas assez. En fait, le truc c'est toujours pareil. Le secret de la longévité, on l'a compris depuis un petit moment. Il faut éviter de répéter les mêmes exercices, les mêmes activités régulières. Faut pas les faire tous les jours. Si tu fais du squat une semaine, bien qu'on commande pas le squat, quelques jours après, si tu refais les cuisses, fais peut-être de la presse. Et puis si tu fais les cuisses la semaine d'après, fais peut-être des fentes. Et puis alterne. C'est sûr que tu vas modifier le stress sur tes articulations, tes tendons. Ça a plus de sens. Maintenant, pour progresser, on a bien vu que c'était quand même beaucoup moins efficace pour la majorité, à moins que t'aies un niveau très confirmé. C'est moins bon. Donc pour reposer tes articulations, j'ai envie de te dire, à partir du moment où tu fais de la muscu et que tu cherches à progresser, tout ça, de toute façon, t'es en train, je sais que ça peut faire pas plaisir, mais t'es en train de t'user, quoi. Hein. Franchement, tu fais les mêmes mouvements, tu forces, tu progresses, tu vois bien que tu prends. C'est pas la nature, quoi. Tu vois, tu forces la nature. Donc, quand tu forces la nature, Après, sur des sports comme l'aviron, le vélo, tout ça, c'est vrai qu'ils font souvent ça et c'est pour ça qu'ils prennent de plus en plus de repères, de data pour essayer d'anticiper les chutes de forme, tout ça. Donc, ils servent beaucoup de la VFC. Il y a mon pote Nico qui vient de faire de Endurance 30, son podcast, c'est ça. Un podcast sur la VFC avec Sylvain Fréville, qui est l'un des meilleurs spécialistes français sur le sujet. Donc, la variabilité de la fréquence cardiaque, le HRV en anglais. Il y a un excellent bouquin que j'avais lu également sur le sujet, mais je sais plus où il est. Bah bref, je le vois pas d'ici. J'ai pas la nuit commence à tomber, donc je vois pas. Mais bref, ils essayent par tous les moyens d'anticiper justement ces signaux de fatigue, cette fatigue, pour justement te dire bah tiens là tu vas te reposer, tu vas t'entraîner un peu moins dur pendant un petit moment. On va suivre ça. Et hop, dès que tu reviens, on est reparti quoi. Tu vois, ils essaient d'individualiser parce qu'en fait. Et donc, toutes ces histoires de 3-4 semaines de cycle plus repos, en fait, c'est juste une généralité qui, encore une fois, ne tient pas sur grand-chose parce que j'ai rien trouvé dans aucun bouquin qui établit ça vraiment de manière concrète, à part l'expérience de certains préparateurs physiques de légende, qui est... bon, c'est déjà pas mal, hein. Mais dans le milieu du kayak, c'est pareil. Quand j'avais interrogé des entraîneurs nationaux, ils m'avaient dit, voilà, on a toujours fait comme ça, on a fait des tests. Bon, je pense qu'ils n'ont pas fait beaucoup de tests, mais voilà, quoi. C'est un chapeau.
Ok, Rudy.
Et bah, sur ce, on arrive au bout de cet épisode. On espère que vous avez passé un agréable moment de notre compagnie, comme d'habitude. N'hésitez pas, je le redis, à tester l'application SP Training et à nous faire des retours. Elle est pour vous. Donc, si vous souhaitez d'autres petites choses ou quoi, mais là, elle est déjà vraiment pas mal complète. Hein. Je pense que vous allez pouvoir vous amuser et vraiment bien progresser avec. N'hésitez pas à nous faire part de vos progrès aussi. On est friands de tout ça. Et puis, si vous avez des questions, bah, ça se passe sur les forums Superphysique, sur superphysique.org, puis forum. Sur ce, on se retrouve dans 2 semaines avec Fabrice, et la semaine prochaine, c'est avec June. Salut à tous.
Salut.
Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui, ou que vous souhaitez nous en poser, ne vous priez pas, c'est avec plaisir dans la partie commentaires sur SoundCloud ou sur YouTube. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec les sujets abordés, par contre, cela se passe sur les forums Superphysique, qui sont les derniers forums de musculation du web et qui est également les premiers sur www.superphysique.org. Enfin, merci d'avance pour votre soutien, notamment à ceux qui laisseront des commentaires sur les applications de podcast, que ce soit Spotify ou Apple, avec évidemment la note de 5 étoiles sur 5. Je compte également sur vos partages sur les réseaux sociaux que je repartagerai avec plaisir. Sur ce, bon entraînement et à la semaine prochaine.